Bon, décortiquons un peu tout ça. Quand on observe un kayak inouï vieux de 2000 ans en peau de phoque, la seule norme de sécurité, bah, c'était de rentrer vivant avec son repas.
C'était du concret, ouais.
Exactement. Et aujourd'hui, pour mettre à l'eau une espèce de fusée en fibre de carbone, on a l'impression de devoir naviguer à travers une vraie montagne de paperasse, en épluchant notre pile de sources du jour, des manuels techniques, des référentiels de diplômes et des grilles européennes. La mission de cette immersion est claire, on veut comprendre comment un système de certification aussi ultra structuré a pu envahir le monde de la pagaille.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce cadre, qui peut paraître super lourd sur le papier, il est vraiment né d'une nécessité vitale. En fait, on a complètement démocratisé l'accès à la rivière et à l'océan.
Des milieux qui, eux, n'ont fait aucune concession.
C'est ça, la nature pardonne pas les erreurs de jugement. Donc il a fallu créer une sorte de pare-choc technique entre l'enthousiasme grandissant des pratiquants et la rudesse implacable de l'eau.
C'est clair. La France a d'ailleurs commencé par structurer ça avec le système des pagaies couleurs. C'est un peu comme les ceintures dans les arts martiaux. On part de la blanche pour apprendre l'équilibre de base et on monte jusqu'à la bleue où on te demande de gérer des vents de force 3 et des vagues d'un mètre.
Ouais, là, les choses sérieuses commencent.
Grave. Mais en lisant les documents sur l'Euro Paddle Pass, le fameux EPP...
Le grand standard européen, tout à fait.
Voilà. J'ai eu l'impression de parcourir un traité administratif bruxellois, quoi. Comment on peut vouloir imposer un standard unique entre les fjords norvégiens et les torrents des Alpes?
Sur cette échelle de 5 niveaux, un pratiquant validé en France sait direct s'il a le bagage pour aller affronter des vagues en Irlande. C'est un passeport qui facilite la mobilité et qui évite surtout de se mettre en danger par excès de confiance.
D'accord, mais ça me pose quand même une petite question piquante. Est-ce qu'on tue pas un peu l'esprit d'aventure sauvage en mettant des niveaux de couleurs très stricts sur la nature ?
Je vois ce que tu veux dire, mais l'aventure sauvage, ça reste l'objectif final. Ça exige juste d'être solidement armé. Prends les niveaux ultimes, comme la pagaille noire.
Le fameux boss final ?
Exactement. À ce stade, on n'évalue plus vraiment la technique de navigation pure. Le jury regarde précisément ta capacité à prendre des décisions critiques et à guider un groupe dans un environnement totalement inconnu et complexe.
Sauf que savoir guider un groupe, ça donne pas automatiquement les outils techniques pour gérer une vraie crise. Et là, j'étais bluffé par les détails des certifications de la Rescue 3 internationale.
Ah oui, le sauvetage en eau vive, on change de dimension.
Complètement. Avec leur niveau SRT, on quitte totalement le sport de glisse. On apprend à gérer des sauvetages nocturnes ou à sortir des véhicules emportés par des inondations. Franchement, on passe d'une activité de centre aéré à un entraînement de force spéciale.
C'est vrai que le contraste est saisissant. Et ça explique la rigueur institutionnelle des diplômes professionnels, comme les BPGPS en France ou les brevets ADEPS en Belgique. Ça demande des mois de formation avec des prérequis très lourds en sauvetage.
Et avec une règle d'or qui revient en boucle, non.
Tout à fait. Si on relie ça à la vue d'ensemble, en cas de danger, la sécurité personnelle du secouriste prime toujours. Un moniteur qui se noie ne sauve personne. Il doit pouvoir évaluer en un clin d'œil si la situation justifie de se mettre à l'eau.
Et cette maîtrise de l'évaluation, elle passe aussi par une hyper spécialisation qui est assez folle. Pour valider un examen en kayak polo, on te demande de dribbler à une main sur 20 mètres.
Au milieu du chaos des autres bateaux en plus.
C'est ça. Et pour la même couleur en kayak de mer, on te demande de faire des calculs de marée hyper précis sur une carte.
Ouais, mais le point commun de tout ça, au-delà du coup de pagaille, c'est la lecture fine de l'environnement. Tous ces niveaux exigent des connaissances écologiques, comme savoir identifier les changements de turbidité de l'eau.
Donc si l'eau devient trouble, on doit réagir ?
Absolument. C'est pas juste pour la beauté de la science. Si l'eau devient soudainement très trouble, tu comprends qu'il y a une crue fulgurante ou une pollution massive en amont. Et là, c'est évacuation immédiate.
En résumé, ce vaste écosystème de compétences certifiées, de brevets et de grilles, c'est vraiment conçu pour protéger l'humain face à la force des éléments.
On structure l'humain au maximum, oui, parce que l'eau, elle, ne changera pas de comportement.
Ce qui m'amène à une pensée finale pour ceux qui écoutent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Si ces certifications tentent de rationaliser l'eau à travers des brevets et des grilles d'évaluation, la nature, elle, reste indomptable. La véritable expertise en kayak n'est-elle pas paradoxalement d'apprendre exactement jusqu'où l'on peut garder le contrôle pour mieux accepter le moment où la rivière décide à notre place?